en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Lorsqu'on évoque son nom, on pense évidemment à son théâtre, à la vague d'innovation dramatique de l'après-guerre. On songe aussi, presque immédiatement, à la cantatrice chauve et à la leçon que le théâtre de la Huchette n'a cessé de jouer depuis 1957. Également à d'autres grandes pièces comme Le Roi se meurt et Les chaises. Il y a aussi des termes génériques qui nous viennent ensuite à l'esprit, comme le théâtre de l'étonnement. Et puis l'entrée à l'Académie française en 1970, avant celle du théâtre complet, publié par les éditions Gallimard dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. Ionesco a pu jouir pendant les dernières années de sa vie du rare privilège de pouvoir se targuer d'appartenir au Panthéon des Lettres. Il a aussi écrit des essais, notes et contre-notes, Un homme en question, La quête intermittente, mais aussi des journaux, un roman, Le solitaire, et même un livret d'opéra. Cet auteur n'est pas seulement un représentant du théâtre de l'étonnement, il est un auteur, que dis-je, un écrivain à part entière. Auteur dramatique, écrivain français, d'origine roumaine, il aurait eu 100 ans le 26 novembre 2009 et nous avons le plaisir de recevoir dans cette émission sa fille, Marie-France Ionesco, professeure de lettres. Merci beaucoup Madame Ionesco de nous faire le plaisir d'être dans ce studio. Et je signale que vous êtes également l'auteur du livre Portrait de l'écrivain dans le siècle, paru chez Gallimard en collection Arcade. Madame Ionesco, est-ce que votre parcours en tant que professeur de lettres vous aurait été inspiré de votre père ?
Alors, si je prenais votre question au pied de la lettre, à savoir si mon parcours de professeur de lettres a été inspiré par mon père, je pourrais répondre par une boutade, à savoir ce serait de bien mauvais augure puisque mon père a écrit la leçon dans laquelle un professeur finit par tuer son élève. Je dirais plus sérieusement que mon père a eu pour moi un rôle tout à fait déterminant. D'abord, je dois dire que je ne saurais jamais assez rendre grâce à la relation privilégiée père-fille quand elle est réussie, et je crois que ce fut le cas. Non pas qu'elle fût toujours idyllique, car tout homme et tout créateur a des moments d'angoisse, d'obscurité, de colère, mais c'était une présence extrêmement forte, intense, attentive. Je crois que le fait que dans son enfance, lui-même ait souffert de l'absence de son père a fait qu'il a été un père extrêmement proche, extrêmement préoccupé de l'éducation de sa fille et un père très tendre. D'ailleurs, cela se voit dans des contes qu'il a écrits, les contes pour enfants de moins de 4 ans, publiés chez Gallimard, et qui sont en fait les histoires qu'il me racontait lorsque j'étais enfant. Mais cette relation a continué bien au-delà de la petite enfance. C'est ainsi, par exemple, qu'il a voulu me transmettre sur le plan littéraire et plus profondément d'ailleurs que littéraire, mais disons littéraire dans un premier temps, ses grandes admirations, ses grandes passions. C'est ainsi qu'il m'a fait lire tous les livres que lui-même, dans son enfance, soit quand il habitait à Paris dans le 15e, soit à la campagne, à la chapelle nantaise, tous les livres qu'il avait marqués. Alors j'ai commencé par La Comtesse de Ségur, qu'il avait lu avec passion, puis Les Trois Mousquetaires. Alexandre Dumas avait été un de ses auteurs favoris. Il le fut pour moi, et il l'est encore. Et puis, je me rappelle même qu'il me le lisait à la bougie, à la chandelle, pour que je fusse absolument pénétrée de cette atmosphère. C'était Le Grand Maulne. Ça, c'était le livre dont il lit d'ailleurs, qui fut le livre par excellence de son enfance. Et il m'a transmis, étape par étape, toutes ses admirations littéraires, mais en me montrant qu'elles étaient plus que littéraires. Par exemple, dans Le Grand Maulne, c'est cette quête de cette jeune fille disparue et retrouvée, et c'est finalement ce domaine merveilleux, ce domaine perdu, cette lumière que l'on recherche. Et puis, il y a un autre texte qui, pour lui, est tout à fait fondamental dans sa découverte de la littérature, c'est Un cœur simple de Flaubert. Et ça, il en parle beaucoup dans nombre de ses livres. Et il m'a bien sûr fait lire Un cœur simple de Flaubert. Et je dois dire que pour moi aussi, ce texte est un texte phare, un texte tout à fait fondamental. Mais si vous voulez, je me permettrai de vous dire, beaucoup mieux que je ne le fais moi-même, ce que lui-même dit d'Un cœur simple de Flaubert. Parce que vous verrez que ça peut nous amener un peu plus loin sur, comment dirais-je, son parcours intérieur. Alors, pourquoi est-ce qu'il a aimé cette littérature, les auteurs dont j'ai parlé, à cause de la lumière? Il dit dans ses écrits que ce qu'il a toujours attiré, avant d'avoir plus tard une expérience lumineuse, mais ça c'est tout à fait autre chose, c'est sur le plan spirituel, est-ce tout à fait autre chose? Je ne sais pas, mais en grande partie autre chose. Mais déjà, dans les textes qu'il lisait, c'était cette expérience lumineuse, qu'il recherchait et à quoi il était sensible. Alors, dans un livre d'entretien qu'il a eu avec Claude Bonnefoy, publié chez Gallimard, qui s'intitule « Entre la vie et le rêve », Claude Bonnefoy lui demande quels sont les livres qui l'ont marqué. Avec un certain humour, mais beaucoup de sincérité, voici ce qu'il répond. « Il y en a eu beaucoup, et ça a changé. Enfant, comme tous les enfants, je lisais des contes de fées. Après, je lisais La vie de Turenne, La vie de Condé. » Il ajoutait d'ailleurs, à la suite de ça, j'ai voulu devenir maréchal. « Après encore, je lisais des histoires qui venaient de très loin. À la Chapelle Antenaise, c'était toute la littérature populaire du XVIIIe siècle. La Chapelle Antenaise étant ce village de la Mayenne dans lequel il a passé plusieurs années et qui fut son paradis, enfin qui reste dans sa mémoire, le paradis est bien sûr perdu, comme tous les paradis. » Alors, que lisait-il à la Chapelle Antenaise avant d'en arriver à Flaubert? Lui demande, était-ce de la littérature de colportage, hein, cela se passait dans les années 1915-1916. Réponse de Jeanne Ionesco, oui. On en lisait encore à ce moment-là. C'était par exemple l'histoire d'un enfant qui fait sa première communion et qui mord dans l'hostie. Alors il a la bouche en sang, c'est le sang du Seigneur. Ou bien sa bouche prend feu, il a des brûlures parce qu'il a mordu l'hostie. Il y avait aussi des histoires de revenants, de loups-garous, de pèlerins. En tout cas, je sais que j'ai découvert la littérature grâce à Flaubert, un peu plus tard, vers 11 ou 12 ans. C'est en lisant Un cœur simple que j'ai eu tout d'un coup la révélation de ce qu'était la beauté littéraire, la qualité littéraire, le style. Certes, j'avais déjà lu Les Misérables, mais je n'avais pas eu le même choc. Avant ce choc, je crois, je lisais tout. Des choses écrites par les grands écrivains, j'avais lu un ou deux romans de Balzac, d'autres romans de Hugo, Les Trois Mousquetaires, et aussi Cri-Cri, Les Patents, des romans policiers. Mais après la découverte d'Un cœur simple, il m'a été impossible de continuer à lire les mauvais romans feuilletons, les romans policiers de basse qualité. Et il dit que ce qu'il comprend à partir de Flaubert, j'avais compris la littérature, ce n'est pas l'histoire qui compte, mais c'est surtout comment c'est écrit, c'est-à-dire comment n'importe quelle histoire doit révéler une signification plus profonde. Aimer davantage comment une histoire est racontée plutôt que ce qu'elle raconte, c'est cela le signe de la vocation littéraire.
Vous décidez de votre parcours de lettres naturellement ou il vous le propose ?
Mais je crois que ça s'est fait naturellement, mais grâce à lui, parce que, comme je vous le disais, dès mon enfance, j'ai beaucoup lu. Grâce à lui, j'ai partagé ses enthousiasmes littéraires, ses goûts littéraires. Et je dois avouer que lorsque j'étais lycéenne, il m'a semblé tout naturel. Je n'envisageais pas de faire autre chose que de faire une licence et puis passer les concours et devenir professeur, ce que je suis devenue. Cela me semblait naturel. Lui aussi a été professeur, peu de temps, mais il l'a été.
Il ne faut pas l'oublier, effectivement. Oui. Revenons au personnage. Eugène Ionesco, un auteur français.
Oui, tout à
fait.
Et
non roumain.
Non, il disait lui-même, bien sûr, je m'appelle Ionesco. Et comme il avait beaucoup d'humour, il disait, oh, ça m'ennuie tellement de m'appeler Ionesco. Ionesco étant le nom le plus courant en Roumanie, c'est Durand, Dupont, Martin réunis. Et comme il avait beaucoup d'humour, il disait, que n'ai-je changé Ionesco en Popesco? Bon, ça, il n'a jamais nié que son père était roumain, mais profondément, d'abord dans sa biographie, il est venu en France, enfin, ses parents sont venus en France alors qu'il avait à peu près un an. Il a vécu en France d'abord à Paris, dans le 15e, du côté du Square du Plex, puis à la Chapelle Antenaise, cette fameuse Chapelle Antenaise, ce village de son enfance dont il parle tant, un certain nombre d'années. Et à 13 ans, il a dû retourner en Roumanie, où sa mère l'a ramené à la suite de séparations familiales, de situations assez douloureuses. Mais il le dit et il l'écrit. Là-bas, j'étais en exil et je n'avais qu'une idée. Revenir en France. Ce qu'il fera d'ailleurs assez vite. Alors, bien sûr, là-bas, à Bucarest, il va terminer ses études secondaires, faire ses études supérieures de français, évidemment. Il va enseigner un petit peu. Et puis, très vite, en 1937, il revient une première fois à Paris. Il est jeune marié, donc avec ma mère, et il s'inscrit à une thèse de doctorat en Sorbonne, thèse dont le sujet était le thème du péché et de la mort dans la poésie française depuis Baudelaire. Alors, cette thèse ne fut pas achevée, mais elle fut ô combien commencée. Parce que par coquetterie, il disait parfois « Oh, elle ne fut ni achevée ni commencée ». Elle fut tout à fait commencée parce que, comme en ce moment, je m'occupe de classer les archives qui seront d'ailleurs données à la Bibliothèque nationale, au département des arts du spectacle, nous avons trouvé, Noël Giray et moi, énormément de fiches. Et ce qui est très émouvant, c'est que c'était des fiches sur des livres lus à la Bibliothèque nationale. Mais rue de Richelieu, il y a, vous imaginez combien de temps ? Il y a 70 ans. Et énormément de fiches sur Verlaine, sur Baudelaire, sur Rimbaud, qui étaient des fiches de lecture en vue de la rédaction de sa thèse.
Revenons à la période de son enfance. Mm-hmm. La Chapelle Antenaise garde un fil conducteur à sa vie qui serait une quête spirituelle. Oui. Est-ce que ce fil sera crucial dans sa vie ?
Oui. Alors, je vais vous dire, enfin, je me permets rapidement de vous citer,
de lire un passage,
de lire un passage sur la Chapelle Antenaise, car cela nous permettra ensuite de voir un peu, de nous amener de façon peut-être plus claire à la suite de son parcours. Donc, pour lui, l'expérience fondatrice, fondamentale, comme pour beaucoup d'entre nous certainement, c'est la découverte de la mort. Seulement chez lui, cette découverte va le marquer et ça va être, je dirais, une de ses grandes angoisses, une de ses grandes questions, je dirais même une de ses obsessions. Il écrira d'ailleurs une pièce, Le roi se meurt, qui se voulait être une sorte d'exorcisme de la mort, d'apprentissage, et bien sûr cela ne le fut pas, car l'apprentissage de la mort est d'un ordre spirituel et non pas littéraire. Mais en tout cas, les deux thèmes, la mort et la Chapelle Antenaise à l'opposé, sont liés. Et voilà comment lui-même les lit. Je me permets de citer encore un passage de ses entretiens avec Claude Bonnefoy. Un jour, j'ai demandé à ma mère, « Nous allons tous mourir, dis-moi la vérité. » Elle m'a dit oui. Je devais avoir 4 ans, 5 ans. J'étais assis par terre, elle était debout devant moi. Je la vois encore, elle tenait ses mains derrière son dos, elle était appuyée contre le mur. Quand elle m'a vue sangloter, parce que tout d'un coup je me suis mise à pleurer, elle m'a regardée, désarmée, impuissante. J'ai eu très peur. Surtout j'ai pensé qu'elle allait certainement mourir un jour. Cela me hantait. Craignais-je sa mort, plus encore que je ne craignais la mort ? C'est curieux comme toutes ces impressions, toutes ces angoisses ont disparu une fois que j'ai été à la campagne, où j'ai vécu pendant 3 ans, loin de ma mère, qui était peut-être la cause inconsciente de mon angoisse. Alors on lui demande, est-ce que ces angoisses sont revenues ? Il répond, bien sûr. Elles sont revenues, je ne sais à quel moment exactement, après mon retour de la Chapelle Antenaise, parce que j'ai découvert le temps. Pourquoi aimait-il la Chapelle Antenaise ? Parce qu'il avait, à la Chapelle Antenaise, le sentiment de l'immobilité. Voilà ce qu'il en dit. C'était une plénitude. Une symbolisation, si je puis dire, du paradis. Ce lieu est toujours pour moi comme l'image d'un paradis perdu. Pourquoi était-ce un paradis, lui demande-t-on. Pourquoi ? C'est comme si les choses s'éloignaient, revenaient, et que moi je ne bougeais pas. Un printemps s'en allait avec son ciel, avec ses fleurs, il s'en allait. Il se faisait remplacer par l'été, l'hiver qui m'apportait d'autres couleurs, d'autres décors, puis il revenait. C'était le monde qui tournait autour de moi. Le temps était une roue, oui, qui tournait autour de moi, qui me sentait immuable, éternel. J'étais le centre du monde. Hélas, une force centrifuge m'a poussée dans la ronde, dans le temps. Alors, il est très clair là, pourquoi était-il si heureux à la chapelle Antenaise, donc cette expérience paradisiaque, car il avait le sentiment de vivre hors du temps. Et ensuite, le temps va, comment dirais-je, l'absorber, le
réapparaître,
et par conséquent, l'angoisse, puisque pour lui, comme pour beaucoup, le temps est le théâtre de nos impuissances, de nos échecs. Le temps, c'est ce qui, par définition, nous échappe, ce qui nous limite. Chronos engendre et dévore ses enfants. Et il reprenait souvent l'expression de Cioran, la chute dans le temps, c'est-à-dire que notre condition humaine, qui est limitée dans le temps, déterminée par le temps et par la mort, est l'expression de notre défaite vis-à-vis du temps. Et non seulement la vie de chaque individu, mais même l'histoire pour Eugène Ionesco, à l'inverse de Hegel, pour qui l'histoire a un sens, l'histoire est non-sens, est déraison, puisque l'histoire est une succession de conquêtes, de défaites, de révolutions qui prétendent instaurer la justice, l'égalité, et qui instaurent une injustice, une terreur plus grande encore. Les idéologies qui, peut-être à l'origine, paraissaient les plus généreuses, deviennent des terreurs. Il n'y a qu'à voir les révolutions, je pense à la révolution de 1916 et à d'autres, mais enfin, celle-là, la révolution soviétique en est l'exemple le plus frappant, qui a connu le XXe siècle, ou alors des choses tout à fait. Enfin, d'autres révolutions de même inspiration, je pense à ce qui s'est passé au Cambodge, etc. Enfin, ce n'est pas la peine d'énumérer. Cette idée que l'histoire est une suite de non-sens, d'échecs, lui vient aussi de ce que, profondément, il avait une pensée ou, disons, une sensibilité religieuse. Or, pour qui a une sensibilité, disons, religieuse, l'aspiration, la première, est celle à l'éternité, c'est-à-dire au fait d'échapper au temps, d'échapper aux limitations du temps, aux échecs, et à une plénitude que le temps ne permet pas. C'est pourquoi il fut ennemi de l'histoire, il fut opposé aux grandes idéologies dont il fut contemporain. Une première fois dans sa jeunesse, lors des toutes premières, des quelques années qu'il a passées en Roumanie, c'était une idéologie d'extrême droite, les gardes de fer, qu'il a combattu. Et il faut bien dire que dans sa pièce Rhinocéros, l'image des rhinocéros, c'était eux. Et puis, le phénomène de l'épidémie idéologique, de la contamination, lorsque les esprits les plus brillants se laissent embarqués dans des idéologies qui n'ont rien à voir avec la réalité, mais qui sont terribles et dangereuses. Et puis une deuxième fois, dans les années 50-60, il s'est trouvé de nouveau relativement seul dans le monde du théâtre qui était le sien, face à la prédominance de l'idéologie marxiste et surtout sous la forme, je parle surtout de théâtre, je répète, du brechtianisme. Il eut de grandes querelles avec Bernard Dort, avec Kenneth Steinen, avec des gens tout à fait brillants qui voyaient en Brecht le grand homme de théâtre dans la mesure où le théâtre de Brecht est un théâtre essentiellement militant sur le plan social, mais je dirais Dieu merci, le Brecht est autre chose que cela. Brecht est quand même plus grand que les Brechtiens, et si les Brechtiens ont souvent voulu le réduire au rôle et au statut d'auteur politique militant, il y a autre chose dans Brecht. Cela dit, il était profondément en lutte contre tous les Brechtiens, contre l'idéologie marxiste, et en particulier ça l'appliquait au théâtre. Et pour lui, l'écrivain, l'homme de théâtre, rejoint les autres, parce que c'est ça qu'on lui reprochait. Mais vous êtes individualiste, vous parlez de vous. Or, il disait très souvent, c'est lorsque je parle de moi le plus profondément, lorsque je vais le plus loin au fond de moi-même, à mes angoisses profondes, juste sur la mort, la souffrance, l'amour, les questions fondamentales, les questions de métaphysique, que je retrouve les autres. Je retrouve les autres quand je vais le plus loin dans moi-même, le plus profondément en moi-même. Ce ne sont pas les conditions politiques, sociales, qui sont finalement les plus graves, car elles changent. Chaque époque a d'autres systèmes sociaux, économiques, mais le problème de l'homme n'est jamais résolu. Et je pense à un personnage de Tchekhov, pour lequel mon père avait beaucoup de sympathie, qui est dans Les Trois Sœurs, le baron Tusenbach, parce que Tusenbach se trouve confronté à un personnage qui lui dit « Mais dans 100 ans, dans 200 ans, les hommes seront heureux. » Et Tusenbach répond « Comment ça, les hommes seront heureux ?»« Oui, bien sûr, dans 100 ans, dans 200 ans, peut-être les cheveux seront-ils coupés autrement, les redingotes et les costumes seront autrement, mais les hommes continueront de se poser les mêmes questions sur la vie, la mort, le sens de la vie et de la souffrance. » Or ça, c'était tout à fait la position, plus que sa position, c'était son existence même. Cela dit, au contraire, ça ne l'éloignait pas des autres. Et dans un très beau discours qu'il a fait en 1989, lorsqu'il a reçu le Molière d'honneur, il dit qu'en tant qu'écrivain, le malheur universel est mon affaire intime, personnelle. Je me sens proche de tout être humain, surtout dans la souffrance, ce qui peut expliquer que dans sa vie, il ait été très engagé dans des actions politiques anti-dictatoriales. Il était bien sûr, donc je vous le disais, dans sa jeunesse, tout à fait anti-garde de fer, anti-nazi, et puis il sera très engagé contre les dictatures des pays de l'Est. Il fera partie du tribunal Sakharov, il sera dans les comités pour le Tibet libre, il prendra position, bien sûr, il écrira de très nombreux articles au Figaro à propos de la Tchécoslovaquie, à propos de tout ce qui se passe dans les pays de l'Est, à propos du Cambodge, à propos du Vietnam, et il sera le président du CIEL, c'est-à-dire du Comité des intellectuels pour l'Europe des libertés, qui prenait position chaque fois, si vous voulez, que les droits de l'homme étaient menacés ou plus que menacés, souvent foulés aux pieds.
Est-ce que vous considérez que c'est le point principal à retenir de l'œuvre, ce combat pour la liberté, pour les droits de l'homme ?
C'est une partie de son œuvre, bien sûr, puisqu'il avait une attitude, pas une attitude, il avait un sentiment double, c'est-à-dire qu'il disait dans ses journaux « Je ne devrais pas m'occuper de politique, je devrais ne m'occuper que de l'essentiel, c'est le spirituel. Mais en même temps, je suis un homme, je dois de temps en temps sortir sur la place et dire ce qui me révolte et tâcher, dans la mesure du possible, même toute petite, tâcher de faire que les autres souffrent moins, intervenir, écrire des articles, ce qu'il a fait. Mais l'essentiel pour lui, c'était... je crois, c'était de cette, comme ça qu'il intitule son dernier livre, cette quête spirituelle qui, même intermittente, fut la quête de toute sa vie, c'est-à-dire la quête de la lumière dont il avait eu une expérience de mystique naturelle, disons à 18 ans, et puis qu'il a perdu, et à la recherche de laquelle il partira toute sa vie. Il était profondément péguiste. Il aimait l'être, il voulait que tout fût sauvé. Et là, je vais vous citer peut-être un passage de La quête intermittente, qui est son dernier livre publié. Naïvement, je dis que je voudrais être sauvée, avec R, sa femme, ma mère, avec MF, avec ma mère, avec la mère de ma femme, avec mon père, avec Marilyn, avec mes amis, mes ennemis, le monde, ce monde, que je voudrais tant, comme le voulait et le disait Peggy, faire monter au ciel.
Très beau passage. Marie-France Ionesco, quel est le livre ou la pièce de théâtre qui est, à votre sens, la plus emblématique de l'œuvre de Jeanne Ionesco ?
Je crois que ce sont Les Chaises. Les Chaises à plusieurs titres. D'abord, c'est une pièce dont le point de départ est un rêve. Or, pour lui, le rêve est une expérience capitale dans sa création. Comme il le disait lui-même, dans le rêve, je suis à la fois auteur, acteur et spectateur. Et le rêve, c'est de la pensée en mouvement, de la pensée en image. Par conséquent, pour un auteur, c'est extrêmement précieux. Or, Les Chaises, comme d'autres de ses pièces, comme Amédée, comme Victime du devoir, comme d'autres pièces, est parti d'un rêve. Il a rêvé d'un immense espace rempli de chaises vides. Alors, bien sûr, le rêve ne suffit pas. À partir d'une image initiale, eh bien, il faut la travailler. À partir de cette image initiale, il a voulu exprimer quoi ? Il a voulu exprimer, eh bien, le sentiment, non pas de l'absurde, comme on l'a un peu trop dit, plutôt de l'étonnement. Qu'est-ce que c'est que les chaises ? C'est l'histoire de deux vieux qui sont sur une île, entourés d'eau, bien sûr. C'est notre monde, c'est l'univers. Ils attendent des invités auxquels un orateur doit délivrer un message salvateur. Les invités arrivent, mais ils sont invisibles. Eux les voient, nous ne les voyons pas. Et l'orateur arrivera et il sera muet. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où il n'y a pas une, comment dirais-je, une vérité, une référence absolue, métaphysique, ontologique, tout ce qui est du vent, de l'irréel, puisqu'il est mortel. Et nous arrivons de nouveau à ce thème du temps, puisqu'il est périssable, il est déjà mort, puisqu'il est mortel. Cela dit, dans sa pièce, il y a un personnage invisible, lui aussi, mais qui a un statut différent, qui arrive par surprise chez les vieux, c'est l'empereur. L'empereur avec un E majuscule. Alors là, tout de même, je dois dire que Ionesco a été élevé également, bon, en France, dans la tradition catholique, mais également les quelques années qu'il a passées en Roumanie, dans la tradition byzantine. Or, chez les Byzantins, l'empereur, c'est Dieu. Hein, dans la tradition occidentale, catholique, romaine, on parle du Christ-Roi. Chez les Byzantins, on parle de l'empereur. Alors, dans les chaises, l'empereur arrive. Et lorsque l'empereur arrive chez les vieux, le vieux est bouleversé, il lui raconte tous ses malheurs, tous ses échecs, parce que toute vie humaine est un échec. Il est évident que le vieux et la vieille sont Adam et Ève, sont Philémon et Baucis, sont toute l'humanité. Et l'empereur, la venue de l'empereur, l'arrivée de l'empereur est la consolation et donne sens à tout le non-sens apparent et peut-être donnera une réalité à tout ce vide. Seulement, et je lui ai demandé, mais puisque l'empereur est là, pourquoi y a-t-il encore l'orateur ? Puisque l'empereur, c'est l'explication de tout, c'est le sens, ça justifie tout. Et il me répondait oui, mais c'est l'erreur du vieux. La vérité, le salut ou la réalité du monde, qu'il y ait un monde visible et non pas invisible, c'est-à-dire mortel, passager, ça peut venir seulement de l'empereur. Or, lui, le vieux, l'attend d'un message humain, d'un orateur. L'orateur n'a rien à dire. Le seul qui aura quelque chose à dire, c'est l'empereur. Et je lui ai demandé, mais pourquoi ne le dit-il pas ? À quoi mon père m'a répondu, parce qu'il ne le lui demande pas. Il se plaint à lui, mais il ne le lui demande pas. Mais peut-être cet empereur se manifestera-t-il ? C'est un peu comme Godot. À la fin, en attendant Godot chez Beckett, Godot n'arrive pas, mais il viendra peut-être demain. De même, l'empereur parlera peut-être. Peut-être sera-t-il visible, si nos yeux veulent vraiment le voir.
Que vous a-t-il apporté comme leçon de vie ?
Comme leçon de vie, ben je vous disais d'abord, il m'a, je dirais, je vous l'ai dit, façonné sur le plan intellectuel. Mais je dirais que ce qui le caractérisait, c'était une très émouvante, surtout plus les années passées, simplicité, le sentiment que de toute personne pouvait venir le salut. Il attendait de chaque personne le salut. Il avait une sorte d'esprit d'enfance, enfin, qui frappait beaucoup les gens qu'il fréquentait, surtout dans les dernières années, une extrême humilité, je dirais. Alors, il avait des vanités d'auteur dont il parlait. Ça, c'est une chose, mais dont il se rendait compte et que lui-même, comment dirais-je, ironisait. Mais, par ailleurs, il était d'une immense humilité et de doute par rapport à ce qu'il avait fait. Il pensait que ce qu'il avait fait, c'était peu de choses, ce n'était pas grand-chose, que finalement, la seule occupation où le seul sens de la vie, c'est la recherche de l'absolu, la recherche de Dieu. Comme il le dit dans différents entretiens, j'ai voulu être moine, je ne le suis pas devenu, j'ai cédé, j'ai flanché, j'ai cédé au plaisir du monde, à la littérature, aux vanités, à toutes sortes de distractions. Mais l'essentiel, c'est ailleurs, et ça, il m'a profondément, je crois, marqué en ce sens. Et puis, je crois, par une profonde compassion qu'il avait pour les gens qu'il aimait, même, comme il le dit, il pouvait être très coléreux, violent, mais finalement, l'idée qu'il avait, c'est que nous sommes tous de pauvres êtres, de pauvres gens, et que finalement, on n'a pas vraiment de raison de haïr qui que ce soit. Dans la colère, on peut s'emporter, mais puisque nous sommes tous mortels, puisque nous sommes tous si fragiles, si finalement soumis à la mort, à quoi bon se quereller, à quoi bon haïr ? Lui qui s'est tellement querellé sur le plan politique. Mais après tout, disait-il, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est certainement la compassion.
En 1970, il entre à l'Académie française. Quels souvenirs vous gardez de ce passage et de cette entrée reçu par Jean Delay?
Alors d'abord, il est élu en 70, mais la réception a lieu en 71.
Absolument.
Une année après. Alors évidemment, nous étions fort émus. Moi, je me trouvais à ce moment-là aux États-Unis. J'enseignais à NYU, New York University, et je suis revenue, bien sûr, pour cette grande cérémonie. J'avoue que nous étions très émus. Il avait beaucoup travaillé son discours, puisqu'il succédait à Jean Paulhan. Ce qui, pour lui, était vraiment une grande joie et un grand honneur, puisque Jean Paulhan avait joué un rôle dans sa vie. Lorsque la cantatrice chauve a été créée en 1950 au Théâtre des Noctambules avec un insuccès quasi total, il y a tout de même eu quelques personnes qui l'ont défendue. C'était Jacques Lemarchand, qui travaillait également chez Gallimard, et puis Raymond Queneau. Et Raymond Queneau, qui avait son bureau chez Gallimard, a fait venir Marcel Arlan, Jean Paulhan, Dominique Horry. Donc Jean Paulhan fut l'un des premiers spectateurs rares de la cantatrice chauve en 1950. Bon, il y a déjà ce lien. Et puis, il y a eu entre eux une correspondance. Mon père collaborait assez souvent à la NRF. Beaucoup de ses textes ont été publiés, avant d'être publiés en volume, ont été publiés en extrait dans la NRF. Et Jean Paulhan lui demandait souvent des textes. Et mon père le respectait beaucoup comme critique. Je dois dire que mon père lui-même avait commencé dans sa jeunesse à être critique, mais un critique, justement un critique en colère, qui trouvait que dans la critique littéraire, il n'y a pas de critère absolu. Et que la faiblesse de la critique littéraire, c'est que on peut avoir toutes sortes de techniques, de méthodes, mais il n'y a pas un absolu dans la critique littéraire. Finalement, c'est une question de goût, d'opinion. Il avait écrit un livre, un pamphlet qui s'appelle « Non », où il montre l'inanité de toute critique littéraire. Cela dit, il a eu des grandes admirations parmi les critiques littéraires. Benedetto Croce, qui était un théoricien de littérature très connu dans les années 30, et puis Jean Paulhan. Et pour lui, « Les fleurs de Tarbes » avaient été un livre fondamental. Donc, Jean Paulhan est quelqu'un qu'il admirait profondément. Il admirait beaucoup la NRF. Et puis, ils se sont connus. Et je crois qu'une fois, Jean Paulhan, même, il le disait, lui avait dit « Il faudrait que vous veniez un jour me rejoindre à l'Académie. » Mon père a dit « Bon, nous verrons. » Ça lui semblait hautement improbable. Et il se trouve que Jean Paulhan est donc décédé, bien des amis l'ont encouragé à poser sa candidature à l'Académie. Parmi ses amis, il y avait Paul Morand, il y avait le professeur Jean Delay, Vladimir d'Ormesson. Je dois d'ailleurs dire que Vladimir d'Ormesson et Paul Morand furent ses parrains et que lors du discours, il est entouré par Vladimir d'Ormesson et Paul Morand. Et donc, il a travaillé très sérieusement son discours sur Jean Paulhan. Et je me rappelle très bien, ce qu'il aimait dans Jean Paulhan, c'était à la fois la rigueur de Jean Paulhan et le sentiment que finalement, les critères littéraires n'ont aucun absolu. Et il a terminé son discours de réception d'hommage en Jean Paulhan en citant Jean Paulhan, « Mettons que je n'ai rien dit ».
Consacré à l'Académie française, est-ce qu'il est consacré au niveau international? Est-ce qu'il est reconnu en Roumanie, évidemment, peut-être ailleurs?
Il fut un moment, dans les années 60, 70, 80, où il était l'auteur français le plus joué dans le monde. Il est joué un peu partout. Naturellement, dans les années où il était très engagé politiquement contre les dictatures des pays de l'Est, il était interdit dans les pays de l'Est. Mais son grand honneur, c'est qu'il était, au contraire, très lu en samizdat, en Russie et dans d'autres pays de l'Est. Il est joué un peu traduit dans toutes les langues du monde, y compris des dialectes, y compris les langues les plus exotiques.
En 1989, il reçoit le Molière, ovation dans la salle. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, sa fille ? Et lui, qu'est-ce qu'il vous dit ?
Écoutez, en 1989, d'abord, lui-même était déjà un peu fatigué, un peu âgé. Alors, c'est un hommage qui lui a été droit au cœur, surtout que c'est un hommage qui a été lu par son vieux complice, Jacques Mauclair, qui a monté beaucoup de ses pièces, qui est certainement l'homme de théâtre de qui il était le plus proche sur le plan humain. Eh bien, dans ce très beau discours qu'il a tenu, pour remercier naturellement d'avoir eu ce Molière d'honneur, il dit que faire dans ce monde. Il raconte un peu son parcours. Il dit bien d'abord, dans toute ma vie, il y a eu l'étonnement et l'admiration. Le monde est beau. Et puis sur ce premier étonnement, très vite s'est greffé un deuxième étonnement, que le monde va mal, que cela va mal, qu'il y a la souffrance. Et comment, eh bien, comment vivre avec ces deux expériences fondamentales, l'étonnement de la beauté du monde et l'étonnement de l'horreur du monde. Et toute sa vie, comme il le dira, il sera partagé entre les deux. Tantôt un sentiment de lumière, de légèreté, tantôt un sentiment de lourdeur, d'obscurité. Alors, dans la fin de son discours, il dit comment trouver une solution ? Eh bien, tout de même, tant que nous le pouvons encore, c'est la contemplation. Tant que nous le pouvons.
Nous nous quittons sur ce très beau message. Merci beaucoup Marie-France Ionesco d'être venue nous parler de votre père, Eugène Ionesco, grand auteur dramatique, écrivain français d'origine roumaine, qui entre à l'Académie française en 1970 et qui a pour parrain Vladimir d'Ormesson et Paul Morand. Je signale que vous êtes l'auteur du livre Portrait de l'écrivain dans le siècle, paru chez Gallimard en collection Arcade.
C'est moi qui vous remercie.